Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Le Guay.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Mahé, qui est membre de l'Institut. Merci de venir nous voir.
Merci.
Vous êtes orientaliste, spécialiste d'histoire des religions, de la patristique, de l'histoire du christianisme oriental. Vous êtes depuis 1988 directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Vous êtes professeur associé à l'Institut d'études anciennes de l'Université de Laval du Québec. Vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages sur différents sujets touchant effectivement à ces premiers siècles de l'Église ou à ces premiers textes. Je précise tout de suite que donc le 11 décembre prochain et le 12 décembre prochain, à la Fondation Cino del Duca, il y aura donc deux grandes journées, un grand colloque sur les textes de Nag Hammadi, donc ce sont ceux dont on va parler aujourd'hui, Histoire des religions et approche contemporaine, avec un certain nombre de philosophes ou de spécialistes de ces questions-là, dont vous bien évidemment, pour mieux cerner, je dirais, ces textes-là. Ce qui nous réunit aujourd'hui, donc, c'est un gros volume de la Pléiade qui s'appelle Écrits gnostiques et qui sont donc, pour l'essentiel, les 46 plus 2, donc 48 écrits provenant donc d'une bibliothèque, enfin provenant d'une découverte faite en 1945 en Égypte, donc à Nag Hammadi. Et donc, il y a des titres dedans, tous plus étonnants et surprenants pour des lecteurs contemporains comme nous. Sagesse de Jésus-Christ, Évangile de la vérité, Traité de la résurrection. Et alors, des évangiles, il y en a au moins 4. Évangile selon Philippe, Évangile de la vérité, Évangile selon Thomas, Évangile selon Marie. Alors on se dit bêtement, ben voilà, on est dans quelque chose qui est du christianisme qui n'aurait pas été retenu ou des éléments qui, d'une manière ou d'une autre, laissent à penser qu'il y a là une tradition chrétienne qui est perdue. Et puis, quand on regarde de façon un peu plus attentive, on voit effectivement des emprunts très forts au judaïsme. Et puis finalement, on se dit, non, en lisant votre introduction, on est dans autre chose qui est effectivement, à proprement parler, des écrits gnostiques. Alors on va essayer de voir ensemble, pendant l'heure qui suit, ce que sont ces écrits gnostiques, ce qu'a été cette tradition et qui se prolonge encore aujourd'hui. Et on peut dire que d'une certaine façon, ces écrits, on peut les prendre de différentes manières. Un, on peut les considérer, et puis vous allez nous dire ce qu'il en est, comme une aventure personnelle, parce qu'il y a une découverte, il y a des textes, il y a l'établissement de cette bibliothèque. Deuxièmement, il y a la mise en évidence d'un savoir qui a été illuminé d'une manière ou d'une autre par la tradition et que nous ne connaissions préalablement que par ceux-là même, Irénée en particulier, qui ont lutté contre cette tradition. Il y a une histoire, donc, depuis 2000 ans, qui est en filigrane de l'Occident. Et puis, l'idée qui me paraît, moi, évidente, suivant laquelle, finalement, nous sommes aujourd'hui revenus sous des aspects divers, par exemple, dans Harry Potter, nous sommes revenus dans une époque gnostique, enfin, qui met en évidence tous les éléments qui sont d'une manière ou d'une autre là. Alors, ce que je voudrais, pour que nos auditeurs comprennent bien ce qu'il en est, c'est que vous essayez rapidement de nous brosser un peu le portrait d'une époque. Cette époque, donc, disons, entre le 1er puis le 2e, 3e siècle de notre ère, où les frontières entre le judaïsme, le christianisme, entre différents christianismes possibles qui vont devenir par la suite plus ou moins hérétiques, donc ces frontières-là ne sont pas complètement établies, tout semble plus ou moins un peu incertain, possible, susceptible, où le partage des eaux ne sera pas complètement fait. Et le partage des eaux, disons, le moment de la cristallisation, on peut le voir à un double moment. Le premier, c'est effectivement avec Constantin, où le christianisme devient religion d'État, et puis où l'autonomie des différentes entités chrétiennes est progressivement supprimée, où des conciles, celui de Nicée par exemple, enfin, ou d'autres, commencent à fixer les éléments du dogme, de la croyance chrétienne, et où donc, à ce moment-là, tout ce qui était possible, éventuel, susceptible de se développer dans le christianisme devient des éléments hérétiques. Donc il y a quelque chose, pendant 2-3 siècles, où beaucoup de choses sont possibles. Donc est-ce que vous pouvez nous donner une idée de cette époque foisonnante, diverse, multiple, variée, où effectivement les frontières ne sont pas complètement arrêtées et où apparaissent ces écrits gnostiques dont vous nous parlez.
Vous l'avez dit très justement, donc c'est un foisonnement et une diversité. Vous voyez, si nous lisons Irénée et les pères de l'Église en général, leur discours est que au départ il y avait une vérité unique qui était la prédication des apôtres au sens où ils l'entendent, et puis que par la suite est arrivée l'erreur, c'est-à-dire la multiplicité des opinions et cette multiplicité, il l'appelle hérésie, c'est-à-dire des choix qui auraient été faits de façon arbitraire par des gens totalement dans l'erreur. Eh bien, évidemment, depuis longtemps, je veux dire depuis les travaux de Walter Bauer, cette hypothèse, c'est-à-dire au départ l'orthodoxie et ensuite l'hérésie, a été totalement renversée. C'est-à-dire qu'au départ, il y a l'hérésie qui a été la multiplicité des opinions théologiques, et puis après ça, il y a eu l'orthodoxie, c'est-à-dire en quelque sorte une des hérésies qui a prospéré. Et bien évidemment, cette hérésie n'a pu prospérer que parce qu'elle a reçu à un certain moment l'appui d'une autorité. Vous vous rendez bien compte que effectivement, la sympathie affichée par Constantin au début, disons vers 319 dans les années 20 du 4e siècle, et la réunion d'un concile œcuménique, à partir de ce moment-là, par exemple, parmi les très nombreuses triades qui pouvaient exister, par exemple la triade entre inengendré, engendré et auto-engendré, ou bien entre le père inconnu, la mère et le fils, eh bien, on va prendre la triade père, fils et Saint-Esprit, et ça va devenir tout à fait l'orthodoxie. Alors, ce dont il faut bien prendre conscience, c'est que même les auteurs que nous croyons les plus orthodoxes, si vous voulez, ont leur frange d'hérésie, entre guillemets. Prenons par exemple Saint-Irénée. Eh bien, Saint-Irénée a, à côté de toutes ses intuitions en accord avec la foi de l'Église universel, il a aussi par exemple une doctrine millénariste qui a été condamnée, considérée comme une autorité, l'idée que avant le jugement dernier, le Christ allait revenir au dernier âge, fonder un royaume de 1000 ans sur terre, et puis au dernier moment, je veux dire, faire le jugement, c'est une représentation des fins dernières qui a été très vite abandonnée par l'Église. Un autre point, c'est que les apôtres, ils sont multiples, si vous voulez, ou les courants de christianisation sont multiples. Évidemment, on ne se représente plus, comme sur les icônes, les apôtres qui, après avoir reçu le Saint-Esprit, s'en vont chacun dans toutes les directions de la terre. Mais ce qui est certain, c'est que avant qu'on ne puisse réunir un concile de l'Église, un concile écuménique, si vous voulez, eh bien, l'Église d'Antioche, les églises de Mésopotamie, car il y en avait en Mésopotamie dès le début, Édesse, par exemple, dès le début du IIe siècle, au moins, l'Église d'Alexandrie et l'Église de Rome n'avaient pas, alors, peut-être pas tout à fait la même explication de la foi, peut-être qu'on était beaucoup moins philosophe, je dirais, à Rome et à Édesse qu'on ne l'était à Alexandrie et à Antioche. Et puis, également, il n'y avait pas de corrélation administrative. On a l'histoire célèbre de l'hérétique Marcion, hein, qui, au milieu du IIe siècle, il naît en Asie mineure, il est d'abord excommunié, paraît-il, par son propre père, qui aurait été évêque du Pont, et ensuite il va à Smyrne, il est excommunié une deuxième fois par Saint Polycarpe, le maître de Saint Irénée, et après il va à Rome, il est de nouveau admis dans l'Église, et il est excommunié une troisième fois, et il va fonder sa propre Église hérétique. Alors donc, en effet, quand nous regardons toutes ces doctrines que nous sommes habitués à étiqueter comme hérésie, nous devons être très prudents pour ne pas commettre d'anachronisme et nous dire qu'après tout, il aurait pu être possible dans d'autres circonstances que l'une de ces hérésies devienne majoritaire. Et dans ce cas-là, ce serait notre forme à nous de judéo-christianisme qui serait réputée marginale et peut-être hérétique.
Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, disons que ce qui est très clair avec Saint Augustin, mais ce qui l'est aussi avec des pères un peu antérieurs, c'est qu'il y a une dénomination systématique des hérésies,
oui,
donc de ce qui n'est pas dans la norme, dans la règle. Bon. Et que quand on regarde de près ce qui est votre cas, dans cette période-là un peu intermédiaire, disons entre le tout début du christianisme et puis troisième, quatrième siècle, enfin, bon, là, il y a des marges d'interprétation, il y a des courants d'interprétation,
oui,
qui sont très différents,
oui,
et progressivement, alors si on a une bonne lecture, on dit ça se décante progressivement,
oui,
et donc apparaît la vérité qui s'extirpe de l'erreur, soit on considère effectivement qu'il y a des jeux d'influence, de pouvoir, qui font que telle interprétation prend le pas sur telle autre.
Pour ne pas prendre parti, on va dire qu'une norme s'institue petit à petit. Il y a une norme qui s'institue petit à petit. Et même, vous voyez, certains pensent que, par exemple, dès le départ, il a été évident que les gnostiques étaient des hérétiques parce qu'ils disaient qu'il y a deux dieux et non pas un seul. Et que le monothéisme, c'est quand même « je crois en un seul dieu », n'est-ce pas ? Ça, c'est pareil, la base de toute foi chrétienne. Eh bien, c'est pas si simple que ça, parce que les gnostiques diraient « le dieu que nous, créateur que nous dénonçons, bien entendu qu'il n'est pas Dieu. Bien entendu qu'il n'est pas Dieu. Bien entendu que attribuer à Dieu tous les échecs de la création, c'est une sorte de blasphème. Et c'est au contraire pour défendre le vrai Dieu, le Dieu unique auquel vous croyez et nous croyons, que nous disons tout cela. Donc vous voyez, les limites ne sont pas du tout claires. Et c'est lentement que se dégage, lentement et à la réflexion, que se dégage la normativité.
Alors je me suis posé comme question en lisant, puis après on va essayer de mieux comprendre ce que c'est que ce mouvement gnostique et puis ces différents textes, que, disons, le problème de fond qui est celui à la fois du christianisme naissant et puis peut-être aussi celui de la gnose, c'est de dire soit on est dans une religion de la séparation. Donc il y a l'Ancien Testament, mauvais, méchant, et puis il y a le Nouveau Testament qui est bon. Voilà. Soit on est, ce qui va s'imposer progressivement, en particulier effectivement Irénée, mais Origène, dans une continuité. Il faut remettre ensemble les deux. Donc comment est-ce qu'on met ensemble les deux, avec une idée de la pédagogie, de l'évolution, enfin, etc., et en même temps sans opposer trop l'un et l'autre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce développement de la gnose vient pour partie de cette idée de concilier, réconcilier, mais pas forcément réconcilier complètement, cette tradition juive et cette nouveauté chrétienne enfin, qui apparaît et qui, à la fois accomplie pour les chrétiens, mais peut-être est en opposition, comme certaines hérésies, entre guillemets, le laissent supposer, est en opposition avec ce qui précédait.
Alors là encore, à mon avis, il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire, il ne faut pas supposer que l'idée de deux testaments est une idée acquise, disons, avant le milieu du deuxième siècle. C'est sûrement pas avant le milieu du deuxième siècle, et peut-être que je suis encore trop rapide en fixant cette date. C'est-à-dire que, en réalité, vous prenez les premiers auteurs chrétiens, les pères apostoliques, mais aussi un auteur comme Justin Martyr, et même Irénée, qui écrit vers 180. Pour lui, l'écriture, c'est l'Ancien Testament. Et on pense, voyez, que l'idée d'un Nouveau Testament existant en tant que tel, en tant que corpus constitué, opposé à la loi des Juifs, pour mettre des guillemets, n'est-ce pas, c'est en réalité quelque chose qui a été d'abord inventé par Marcion vers le milieu du deuxième siècle, et que c'est justement pour réagir au Nouveau Testament, entre guillemets, de Marcion, que l'Église est amenée à créer, disons, petit à petit, une collection canonique des écrits apostoliques, et que petit à petit va naître l'idée d'un Nouveau Testament au sens chrétien du terme. Alors, ce Nouveau Testament au sens chrétien du terme, bien entendu, il se présente à la fois comme nouveau et ancien. Le côté ancien est évident. Vous ne pouvez pas lire un seul évangile sans retrouver à foison des citations de l'Ancien Testament. Jésus lui-même connaissait parfaitement la loi de son peuple, n'est-ce pas ? Et mais évidemment, ce qui est nouveau, c'est l'accomplissement. C'est que on a le sentiment que les temps sont accomplis et qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Et alors, les gnostiques eux-mêmes, au fond, c'est pas tant pour dire qu'ils rejettent l'Ancien Testament, c'est pour dire qu'ils s'insurgent contre une comme une interprétation trop naïve, trop littérale. C'est ce qu'ils entendent en général quand ils parlent de judaïser, c'est-à-dire comprendre dans un sens trop matériel, trop littéral, des textes qui, à leur avis, ont une portée spirituelle qui reste complète, à condition qu'on en déchiffre le sens caché.
On peut mettre ça en rapport aussi avec les trois lectures d'Origène.
Oui.
Donc l'idée effectivement qu'il y a une lecture spirituelle, mais que la lecture spirituelle, qui est peut-être l'accent que mettra la gnose dans la lecture des textes, mais qu'il y a aussi une lecture historique, il y a aussi une lecture morale, il y a aussi une lecture qui tient effectivement un peu l'ensemble.
Alors, vous avez bien raison de parler d'Origène, parce que d'une part, il est un hérétique qui a été condamné en tant que tel, n'est-ce pas ? Mais d'autre part, c'est aussi un génie théologique. Et en réalité, grâce aux lectures originiennes qu'ont fait les pères cappadociens du IVe siècle, Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, l'approche spirituelle d'Origène a passé, je veux dire, dans les croyances de l'Église.
Juste un petit point sur Origène, effectivement, nous n'avons que peut-être 10% ou 15% des oui. textes d'Origène, le reste ayant été effectivement détruit au moment où on a considéré qu'il était hérétique, et toute la pensée de tous ceux qui ont retrouvé, je pense aux pères de Lubac en particulier, qui ont retrouvé les pères de l'Église depuis 50 ans, enfin après la Seconde Guerre mondiale, ont réhabilité
absolument.
Origène comme un génie absolu de la lecture de la,
absolument.
Enfin, de la Bible. Voilà. Nous allons faire une petite page de musique. Et en particulier, on va écouter, et nos auditeurs comprendront pourquoi, un peu de musique de la flûte enchantée de Mozart, et nous verrons plus tard pourquoi. Reprenons notre entretien aujourd'hui sur les écrits gnostiques avec Jean-Pierre Mahé. Donc, on a essayé dans une première partie de voir un peu quel était le milieu à la fois, comme on disait, foisonnant, incertain, tout était possible, et progressivement les choses se sont cristallisées. Et d'une certaine façon, le christianisme s'est lui-même découvert, il s'est lui-même installé dans le temps, alors que d'une certaine façon, les temps derniers devaient arriver tout de suite. Et donc, en même temps qu'il s'installait dans le temps, il a distingué ce qui était orthodoxe et ce qui ne l'était pas, et donc a rejeté un certain nombre d'écrits, dont en particulier ces écrits gnostiques. Alors, je voudrais qu'on en vienne plus particulièrement à ces écrits gnostiques, donc qui font l'objet de ce gros volume. D'abord, une définition un peu générale qui recouvre différentes particularités et différentes divisions que l'on verra par la suite dans ces différents écrits. Donc vous dites en gros qu'il y a, pour les écrits gnostiques, trois éléments de la gnose: connaissance de soi, connaissance de Dieu, et puis surtout le mode d'accès, enfin la connaissance de la voie qui permet d'accéder à la connaissance de soi et ou à la connaissance de Dieu, considérant que, d'une certaine façon, on est un peu, ça sera ma question, on est un peu dans une philosophie qui semble être un peu une philosophie grecque, qui déprécie la matière au profit d'une âme qui aurait été un peu emprisonnée dans la dite matière, et grâce à la gnose, on est susceptible de pouvoir libérer cette âme pour rejoindre le plérum, enfin les cieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une définition synthétique ou une approche synthétique de ces différents courants de la gnose ?
Le mot gnostique, si vous voulez, renvoie à deux choses. Il renvoie d'une part à gnosticisme, qui est un courant historique apparu, disons, du 1er au 3e siècle, un peu au 4e siècle de notre ère, où il est déjà un peu sur le déclin, et d'autre part au mot gnose, hein. Gnose, vous voyez, je crois qu'il faut vraiment partir de l'étymologie, c'est-à-dire que gnosis, c'est un processus dynamique, hein. Une disposition à connaître, c'est pas un savoir directement constitué, c'est un processus dynamique, une prise de conscience qui va se poser. Alors, vous avez très très justement dit qu'il y a trois objets de gnose qui sont la connaissance de soi-même, la connaissance du tout et la connaissance de la voie. Et en réalité, ces trois objets ne font qu'un. Nous avons justement un adage qui apparaît dans plusieurs des textes de Nag Hammadi, qui est « qui se connaît soi-même connaît le tout ». Comment expliquer cet adage ? La première question, c'est « qui est soi-même ? » C'est-à-dire, est-ce que moi, c'est cette comment dire, cette boue incertaine et passagère, n'est-ce pas, qu'est le corps à quatre dimensions, avec toutes ces maladies, toutes ces infirmités, tout ce sens de la douleur et du mal qui caractérise la pensée gnostique. Bien, la réponse, c'est non, c'est-à-dire moi, et c'est l'âme, bien entendu. Mais quelle âme? À l'intérieur de l'âme, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a d'abord tout ce qui sert à faire bouger le corps, tout ce qui sert à sentir, tout ce qui sert après à raisonner, et tout ce qui sert non seulement à raisonner, mais à voir au-delà du raisonnement, à avoir l'intuition des réalités supérieures. Alors, il est bien évident que les gnostiques vont plutôt regarder vers ces facultés supérieures de l'âme et dire qu'au fond, tout le reste, c'est une conséquence de l'incarnation, ou donc c'est quelque chose qui est finalement qui doit périr en même temps que le corps. Et alors, en quoi est-ce que cet objet, ces facultés supérieures de l'âme peuvent être semblables au tout? Eh bien, là encore, ça pose la question de l'être véritable. Hein, c'est-à-dire, est-ce que ce monde passager est l'être véritable? Sûrement pas, hein, puisqu'il change sans cesse, donc il n'est pas à la fois. Tandis que l'être est, eh bien, cet être véritable, assurément, d'après les gnostiques, il est d'une nature spirituelle. Il est d'une nature spirituelle et il est comparable donc aux qualités les plus spirituelles de l'âme. Alors, est-ce que ça, c'est de la pensée grecque? Est-ce que c'est une « akute hellenisierung des Christentums » comme disait Harnack? Je lui en laisse la responsabilité. Parce qu'en réalité, il ne faut pas avoir une idée trop figée de ce qu'était le judaïsme antique et hellénistique. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que très tôt après la fixation du Nouveau Testament par écrit, donc le retour d'exil, ou etc., il y a eu l'âge hellénistique. Et que les Juifs se sont... D'abord que la Bible a été traduite en grec, et que les Septante restent un monument qui est en même temps la tradition des chrétiens orientaux, c'est avant tout un monument de pensée juive, tout à fait authentique. Et que du même coup, comme n'importe qui connaissant le grec pouvait connaître la Bible et en discuter, eh bien, à ce moment-là, le judaïsme est entré dans une période intense d'échange avec le monde hellénique, qui s'est approprié et il a réinterprété à sa façon toute la philosophie grecque, en sorte que, à l'époque où nous situons, qui est le premier ou le deuxième siècle de notre ère, il est bien hasardeux, si vous voulez, de considérer comme radicalement non-juifs les pensées que nous venons de dire. Elles sont représentées dans le judaïsme et elles se mêlent, évidemment, à des interprétations qui sont inséparables de l'interprétation hellénistique du Nouveau Testament. Alors, bien entendu, le problème de la voie, si vous voulez, c'est, je dirais, à partir du moment où on se dit qu'il faut se libérer du corps pour aller vers l'esprit, qu'il faut se libérer du monde pour aller vers l'être, on pose une espèce de défi impossible. C'est-à-dire, comment peut-on sortir du monde? Puisque nous sommes au monde et tout ce qui est autour de nous et nous-mêmes, nous appartenons au monde. Et si on essaye de superposer à cela les représentations ontologiques de l'époque, bien, je dirais que le monde, c'est une série de couvercles qui sont concentriques, ce qu'on appelle l'assemblage des sphères, n'est-ce pas? Il y en a sept les uns par-dessus les autres. Et donc, s'échapper de cet endroit pour aller où, n'est-ce pas? Eh bien, la gnose prétend que grâce à un sauveur qui, dans le gnosticisme, est assimilé à Jésus-Christ, Dieu, le Dieu supérieur qui habite bien au-dessus du monde matériel, qui est l'être, qui est l'esprit, qui est même au-delà de l'être, a vu ce qui s'est passé. Il a envoyé Jésus. Jésus, pour descendre, a traversé, comme ils disent, tous les mystères, c'est-à-dire toutes les constellations, toutes les enveloppes de l'univers, et il a indiqué, et ensuite il est remonté. Et la voie de la descente, c'est la voie de la remontée. C'est un autre adage gnostique.
Pour bien comprendre, il y a trois éléments qui me semblent être, disons, plutôt grecs.
Oui.
Que chrétien, pour le prendre, oui. C'est pas juif ou grec, mais plutôt chrétien. Vous avez, un, effectivement, l'idée de la déchéance dans le corps, la matière, qui pourrait laisser supposer que le corps, la matière, c'est le mal, et que, effectivement, l'âme, c'est le bien, donc il doit rejoindre une partie céleste. Première chose. Deuxièmement, si j'ai bien compris, la gnose, elle, insiste plutôt ni sur la foi, ni sur les œuvres, sur lesquels insisteront beaucoup le christianisme, mais sur la connaissance. Et troisième élément, qui est un reproche fort fait par le christianisme à la gnose, c'est de dire, oui, mais cette connaissance est une connaissance réservée, une connaissance pour des initiés, d'une certaine façon. Alors, est-ce que ces trois éléments-là, ce dualisme, cette opposition, la matière mauvaise, et puis effectivement l'esprit bon, voilà, premièrement. Deuxièmement, éliminer ou mettre de côté la foi et les œuvres au profit de la connaissance. Et troisièmement, une connaissance réservée. Est-ce que ces trois éléments-là, qui sont, je parle sous votre contrôle et c'est une question, les éléments discriminants de la gnose par rapport au christianisme, est-ce que ces trois éléments-là ne mettent pas de côté, enfin n'inclinent pas la gnose du côté d'une philosophie grecque, pour le faire vite, plutôt que d'un salut universel offert à tous et qui peut être proposé à chacun par les œuvres et par la foi telle que le proposera le christianisme.
Eh bien, là, vous parlez un petit peu comme Saint-Irénée. Hein, vous êtes en train de faire à la gnose des reproches, au gnosticisme, de faire des reproches qui méritent d'être nuancés. Alors, je dirais sur le premier point la question de la chute. Bien sûr, on trouve dans la philosophie grecque l'idée d'une opposition entre le monde idéal et le monde de matériel. Alors, le problème dans la gnose, c'est que la chute est antérieure à la création du monde matériel. Elle se produit dans le monde spirituel, exclusivement. Hein. Et si vous voulez, en disant que la sagesse, qui est une émanation de Dieu, a voulu connaître Dieu hein, entièrement et qu'elle est tombée, on se situe dans un type de spéculation qui est plutôt juif que grec. N'est-ce pas? Et évidemment, la création du monde, etc., le monde matériel, etc., c'est peut-être des emprunts à la philosophie grecque. Mais voyez, le drame de la chute n'est pas vu, au fond, en termes helléniques. Le deuxième point, et c'est la gnose. Hein, c'est-à-dire que le problème est de savoir comment on connaît Dieu. Est-ce que on connaît Dieu d'abord et ensuite on l'honore? Ou bien, donc, dans ce cas-là, on dit colit qui nouit, n'est-ce pas? Ou bien est-ce qu'on se rend d'abord digne de connaître Dieu et ensuite, nous on se rend d'abord digne par un culte, n'est-ce pas? Et ensuite on connaît Dieu, nouit qui colit. Hein. Eh bien, la gnose est pour la deuxième formule. C'est-à-dire que opposer naïvement la connaissance aux œuvres, c'est un thème polémique, c'est pas la réalité. Je veux dire, la réalité, c'est que la gnose est une prise de conscience et que le premier fruit de la prise de conscience, c'est le sebeia, et c'est la piété. Si on n'a pas de piété au départ, c'est-à-dire si on ne croit pas que Dieu existe et veut être connu, hein, et si on ne se rend pas digne de cette connaissance en se séparant justement de tout ce qui défigure l'âme, etc., il n'y a pas de gnose. Donc c'est un peu vain d'opposer la foi et les œuvres. Je veux dire, la gnosis et la pistis, ça va ensemble. Tout à coup, j'oublie le troisième point que vous aviez dit.
Non, c'est le point, c'était sur le savoir réservé à quelques-uns.
Un savoir réservé, voilà. L'idée, c'est qu'il y a une voie, hein, et que cette voie a différentes étapes. Hein. Et alors, le problème est de savoir, c'est vrai, les gens ne progressent pas tous ensemble. Hein. Donc, vous avez des gens qui sont arrivés à un certain point, et puis vous avez des gens qui sont arrivés à un point plus élevé. Et l'idée de la gnose, c'est qu'en effet, les gens qui sont arrivés à un point plus élevé doivent instruire les autres et apprendre à cohabiter avec eux. Alors, on dit quelquefois, alors ça c'est Saint-Irénée qui dit, mais les malheureux qu'ils classent dans la première étape, nous qu'ils appellent les psychiques, les pauvres chrétiens ordinaires, en réalité, ils disent que nous n'arriverons jamais à rien parce que nous n'avons pas le germe spirituel. En réalité, le germe spirituel, c'est une virtualité, comme l'indique. C'est pas un déterminisme, c'est une virtualité. C'est quelque chose qui peut germer ou ne pas germer. C'est une virtualité qui est chez tout le monde, si vous voulez, mais qui se développe plus ou moins chez certains autres. Il faut se garder, à mon sens, de simplifications excessives qui nous sont suggérées par la polémique extrêmement intelligente d'Irénée, de Justin et, mettons, de Tertullien aussi, qui est un auteur tout à fait intéressant.
Alors, nous allons observer une petite page musicale, toujours avec la flûte enchantée, et on comprendra pourquoi, pour reprendre juste après. Thank you. Nous reprenons une troisième partie donc, de notre entretien autour des écrits gnostiques qui sont parus en Pléiade avec Jean-Pierre Maïc. Donc nous avons vu effectivement dans un premier temps quel était le contexte général, deuxièmement quels étaient les points qui permettaient d'unifier, disons, tous les éléments de cette gnose avec l'adage que vous avez rappelé « qui se connaît soi-même connaît le tout ». Et puis maintenant, je voudrais dans une troisième partie qu'on essaie de mieux rentrer dans le détail de cette gnose, parce que vous avez effectivement bien précisé que Irénée, qui est donc celui qui s'en est pris le plus à cette gnose, pour une finalité qui est bien celle d'asseoir
des fidélités pastorales, on
pastorales,
pourrait dire.
Voilà, fait des simplifications, même si tout ce qu'il dit n'est pas complètement faux, mais peut-être un peu exagéré, et que peut-être aussi ce que vous disiez par ailleurs, que sans doute Irénée connaissait beaucoup moins la gnose, ou ne connaissait qu'une partie de la gnose, que nous ne la connaissons maintenant grâce à cette bibliothèque-là, et donc que nous avons une vision et que vous avez une vision plus large et plus plurielle de ces différents gnoses. Alors, je voudrais que vous nous donniez un peu des détails sur, disons, les trois parties, enfin les trois segments de la gnose telle que vous les différenciez. Donc, les adeptes de Seth, hein, le séthénianisme, les écrits de Valentin, donc autour de Valentin, et puis troisième catégorie, puis vous me reprenez si je me trompe, troisième catégorie, donc les autres écrits gnostiques qui semblent bien différencier les trois types d'écrits gnostiques qui existent.
En effet, on a longtemps connu les gnostiques uniquement par les attaques des pères de l'Église et puis aussi par quelques fragments assez tendus qu'ils nous donnaient dans leurs œuvres, mais ce n'était après tout que des fragments. Et donc la bibliothèque de Nag Hammadi nous a permis de trouver des textes authentiques qui ont été écrits tout d'abord en grec et qui ensuite ont été traduits en copte. Mais disons que la connaissance que nous avons du copte nous permet de reconnaître assez bien le sens original de ces écrits. Alors, ça serait une illusion de croire que, grâce à cette bibliothèque, nous avons une vue complète du développement du gnosticisme entre le 1er et, mettons, le 4e siècle de notre ère. Il y a dans Irénée, à partir du chapitre 22 du livre 1, une espèce de généalogie fabuleuse, si vous voulez, ou traditionnelle, fabuleuse, j'interprète là en disant ça, traditionnelle du gnosticisme qui remonte, par exemple, à Simon le magicien, qui, vous savez, prétend avoir retrouvé la grande pensée de Dieu, ou être lui-même la grande pensée de Dieu, l'idée première que Dieu avait en créant le monde, et puis alors des auteurs comme Ménandre, Saturnile, etc., qui sont des auteurs samaritains, ce qui suggère donc comme milieu d'origine un milieu très proche du judaïsme. Alors, malheureusement, sur ces courants qui sont presque contemporains de l'âge apostolique, nous n'avons pas de témoignage direct dans les écrits de Nag Hammadi. Ce que nous apportent les écrits de Nag Hammadi, c'est la connaissance de doctrines, de systèmes qui se sont développés du 2e au 4e siècle. Donc il faut bien voir que les origines proprement dites nous échappent. Et le plus ancien de ces courants, c'est un courant que Irénée cite, n'est-ce pas, comme l'ignostique, entre guillemets, qui serait à l'origine de la doctrine de Valentin, n'est-ce pas? Alors, il se trouve que sur ce point, l'information d'Irénée est particulièrement précieuse parce qu'il cite presque littéralement un traité que nous appelons le livre secret de Jean et dont nous avons trois copies à l'intérieur de la bibliothèque de Nag Hammadi. Et c'est donc, disons, ce qu'il y a de plus ancien, on peut dire, dans les courants gnostiques. Alors, nous l'appelons par commodité, je veux dire, nous, les éditeurs du volume, nous l'appelons par commodité Sétien, parce que dans un certain nombre d'écrits qui appartiennent à cette famille, les gnostiques se présentent comme les fils de Seth, n'est-ce pas ? Et vous voyez que, du même coup, ils réfutent le reproche que leur font les hérésiologues, qui leur disent « nous étions à l'origine, nous parlons du Dieu créateur qui existe depuis le début des temps, qui n'a pas cessé d'être connu depuis Abraham, tandis que vous êtes nés de la veille et vous racontez des mensonges qui ont été inventés avant-hier. » Et à ce moment-là, les Sétiens disent « non, nous sommes les fils de Seth, et excusez-moi, mais Seth est infiniment plus ancien qu'Abraham. » Et voilà. Alors, qu'est-ce qui est caractéristique des Sétiens ? C'est le mythe de la chute, justement, avant le monde. Hein, c'est-à-dire l'idée que parmi les très nombreuses idées de divines, il y en a une qui s'appelle Sophie, qui est tombée et qui a été exclue de la plénitude divine, et que c'est de cette chute et de cette exclusion qu'est issu le monde matériel. Mais alors, ce monde matériel est dans un violent antagonisme avec le monde spirituel. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, disons, deux archontes qui sont des anges un petit peu diaboliques, Yaldabaoth, le maître du chaos, et Saklas ou Samael, qui est le dieu des Juifs. Alors, ils ont créé le monde matériel pour en faire une prison pour l'âme, et ils ont terrorisé les hommes, ou ils les ont trompés, notamment par l'enseignement de la loi. Donc, c'est une vision tout à fait dramatique, on peut dire, de l'histoire du monde. Et alors, Valentin, qui arrive après, et qui fonde le courant valentinien...
Donc ça, c'est le deuxième courant, c'est ça ?
Il connaît ses écrits.
Voilà. Donc,
Et donc, lui, il va essayer de pacifier, si vous voulez, les choses. C'est-à-dire que...
Donc Valentin, juste petit point de détail, donc Valentin, donc, qui a vécu vers 135-160, hein,
oui,
serait né égyptien, c'est ça ? Éduqué à Alexandrie, et Irénée, que vous citez, le considère comme le plus dangereux de tous les hérétiques. Hein. Et donc, il donnerait, d'une certaine façon, une forme de philosophie du christianisme. C'est-à-dire qu'on serait là dans une opposition matière et esprit, et puis un principe premier qui serait le Père, avec, là aussi, un fils qui serait, d'une certaine façon, la connaissance qu'a le Père de lui-même.
Oui, absolument, l'intellect. Là,
voilà.
Vous parlez de l'intellect.
Voilà. Et tout ça formant le plérum, la plénitude.
Oui, alors ce que vous venez de dire, à vrai dire, se rapporte au courant valentinien qu'a connu Saint-Irénée. C'est-à-dire que Saint-Irénée a connu essentiellement ce qu'on appelle les valentiniens occidentaux, et le grand nom qu'il faut mettre, c'est Ptolémée. Hein, qui était un disciple de Valentin. Et c'est lui qui a donné tous ces noms aux éons. Et donc, une des grandes révélations, si je puis dire, de la bibliothèque de Nag Hammadi, c'est que dans le système primitif de Valentin, le mythe de Sophie n'existe pas. Les éons n'ont pas de nom. Hein. Ils n'ont pas de nom, ils sont une multiplicité qui n'est pas encore tout à fait dénombrée. C'est un petit peu ce qui apparaît à travers, disons, l'évangile de vérité, dont l'origine valentinienne paraît à peu près certaine, et puis surtout le grand traité tripartite, dans lequel c'est un logos, hein, qui est déchu et qui est à la cause de la chute. Mais alors, ce qui est différent par rapport au système précédent, c'est que, au fond, la création du monde n'est pas un mal, hein. C'est une économie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'économie ? Ça veut dire une concession miséricordieuse de Dieu. Ça veut dire que, au fond, c'est pour récupérer les particules de lumière, n'est-ce pas, que il a bien fallu les mettre dans des corps et dans des âmes humaines, et qu'il a bien fallu créer un cadre de vie. Et du même coup, si vous voulez, la connaissance du monde, c'est une école de l'invisible. Le monde est une école de l'invisible. Et il y a moyen, disons, en partant de la croyance de chacun, de la connaissance du Dieu du monde, il y a moyen de remonter plus haut aux raisons dernières, comme ça. Alors, c'est une approche qui a pour but de pacifier, justement, les relations entre les gnostiques et les autres fidèles.
Mais...
Et donc, dans cette vision apaisée, si vous voulez dire, on va représenter les gnostiques comme un niveau supérieur d'initiation, mais un niveau supérieur d'initiation qui a pour but d'instruire et d'intégrer, de faire monter les fidèles de la Grande Église. Et c'est pour ça qu'Irénée est aussi indigné. Qu'il se dit, on va me détourner mon troupeau, vous voyez ?
Enfin, d'une part, on va le détourner de son troupeau, mais deuxièmement, c'est une pensée chrétienne. Parce que si j'ai bien compris, cette sagesse, donc il y a deux sagesses,
oui,
celle du dehors et celle du dedans, et celle du dedans donc se nomme Christ.
Oui.
Et ce Christ-là, lui, il a pris la forme de Jésus, qui dit aux hommes qui est le Père véritable. Donc,
oui.
Donc on est bien dans pas quelque chose qui est parallèle, mais quelque chose qui vient se greffer sur la révélation chrétienne.
Qui prétend être la véritable interprétation
de
la révélation chrétienne. Et c'est évidemment ce qui provoque
l'agacement. Voilà, d'où l'agacement d'Irénée. Ce qu'on peut comprendre.
Il est tout à fait scandalisé par cette...
Voilà. Donc ça, c'est le deuxième tendance, deuxième ligne. Hein, voilà. Et puis après, vous avez une troisième catégorie qui est
Alors, là,
les autres écrits gnostiques qui sont plus
si vous voulez, la pensée gnostique, au fond, il ne faudrait pas s'imaginer qu'il y a une église sétienne, puis une église valentinienne, et puis d'autres églises gnostiques. En réalité, il y a des courants gnostiques, mais au fond, le gnosticisme, c'est un mode de pensée, donc c'est rebelle aux institutions. Mmh. Et puis, suivant les époques, les gnostiques sont ou ne sont pas admis dans les communautés chrétiennes. Mmh. Alors, le gnosticisme peut se développer sous forme, disons, d'écrits très élémentaires, hein, qui sont loin des grandes élaborations conceptuelles dont nous venons de parler, ou au contraire, d'écrits beaucoup plus élaborés. Alors, peut-être que parmi les écrits les plus élaborés, nous avons la paraphrase de Sème, alors qui est quelque chose de passionnant, probablement né en Syrie et en Palestine, dans lequel on a une anthropologie très 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 compliquée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans lequel on voit déjà un certain nombre de conceptions qui vont être celles du manichéisme. Alors, évidemment, le manichéisme n'est pas une forme de gnosticisme, c'est au contraire une religion constituée avec un chef, une hiérarchie, etc. Mais que Mani ait connu d'abord des pensées juives et aussi des pensées gnostiques, c'est une évidence, hein, donc comme ça. Et puis alors, on a des écrits qui sont inclassables parce qu'ils vont partout. Alors, peut-être les plus inclassables, ce sont les recueils de sentences. Hein. Le plus célèbre recueil de sentences que nous avons, c'est le fameux évangile de Thomas. Le fameux évangile de Thomas, il est très différent des évangiles canoniques, en ce sens qu'il ne raconte rien. Au lieu de dire que Jésus, entré dans la synagogue de Capharnaüm, a pris le livre, qu'il a lu ce texte et qu'il y a eu, etc. Lui, il ne s'intéresse pas à savoir si Jésus a dit ceci ou cela à tel moment ou à tel autre. Il s'intéresse uniquement à ce que Jésus a dit, c'est-à-dire voici les paroles de Jésus le vivant. Hein. Jésus a dit...
Voici les paroles, je cite le début, hein, voici les paroles cachées que Jésus le vivant a dites et qu'a écrites le jumeau Judas Thomas. Et à ce moment-là se succèdent effectivement un certain nombre de...
De paroles. Et regardez, paroles, lisez voilà. La première par exemple.
Alors la première c'est effectivement, il a dit... Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort.
Quelle est l'idée ? C'est que, au lieu de raconter une histoire qui va distraire l'opinion du lecteur, on va raconter à chaque fois un dit de Jésus, et puis, après ça, il y a un autre dit, donc on marque une pause, on médite, et on fait un exercice spirituel. Et ce genre de, par exemple, qui ne cherche pas celui, de chercher celui qui cherche, et quand il cherchera, il trouvera, quand il trouvera, il s'émerveillera, et quand il s'émerveillera, il dominera sur le tout. Alors, apprendre, si vous voulez, à méditer, surtout à s'émerveiller pour s'élever au-dessus de la création, c'est un exercice spirituel, et c'est quelque chose que, d'abord, on peut pratiquer tout seul, dans sa chambre, et sans demander rien à personne. Mais c'est quelque chose qui peut être le bien de toutes les communautés gnostiques, quel que soit le système.
Mais par exemple, pour prendre cet évangile selon Thomas, à partir de quel moment est-ce que ces paroles, qui sont des paroles de Jésus, n'ont plus été considérées ou n'ont pas été considérées par l'Église instituée comme dites par Jésus lui-même ?
Alors attendez, là on touche un problème qui concerne la rédaction des évangiles.
Oui. Hein.
Alors il est probable, si vous voulez, que l'évangile de Thomas touche à l'une... touche en la modifiant, hein, l'une des sources même des évangiles canoniques. Donc on peut prendre beaucoup de ces paroles, les mettre en parallèle avec les évangiles canoniques et constater que c'est presque la même chose. Donc l'Église, sur ce point, ne peut pas renier ces paroles authentiques. Le problème est plutôt de savoir à partir de quel moment on a décidé de mettre ces paroles dans un récit et de le lier, évidemment, à ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Alors, on peut dire que celui qui mérite la marque déposée évangile, c'est Marc, hein, qui écrit le premier évangile. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je dirais que beaucoup de théologiens les situent, disons, dans le dernier quart du premier siècle de notre ère. Et puis, alors... surtout, allons plus loin, à partir du moment où il existe, au fond, un accord sur les écrits apostoliques, c'est-à-dire vers le milieu du IIe siècle, ou encore à l'époque d'Irénée, vers 180. Alors, à ce moment-là, il y a quatre évangiles qui sont vrais, qui sont les quatre vivants du trône du Fils de l'homme, et les autres évangiles sont réputés totalement impossibles.
Pour terminer cette troisième partie, je voudrais que vous nous disiez un peu, pour faire un peu de sociologie, hein, ces gnostiques. Est-ce qu'ils représentaient beaucoup de monde? Est-ce que c'était quelques individus ici ou là? Est-ce qu'ils étaient très très marginaux? Est-ce qu'ils étaient au contraire très importants? Vous voyez, quel était dans ce milieu, dans ce bouillonnement à la fois juif, chrétien, un peu les deux à la fois, quelle était leur importance en nombre, si vous voulez?
Vous me posez une question pratiquement insoluble.
Oui.
C'est-à-dire que nous n'avons pas... Nous sommes obligés, en tout cas, d'être extrêmement prudents pour passer, disons, d'une description doctrinale à une question sociologique. Je vous dis, la première question même, c'est de se représenter qu'est-ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, est-ce que c'était un courant dans les communautés, n'est-ce pas? Ou bien est-ce qu'ils ont formé des communautés à part? Alors, je dirais les deux, mais pas au même moment. C'est-à-dire que, très probablement, il y a eu des sectes juives. Vous voyez, nous avons une histoire sur les Ophites, où on nous dit que, dans un premier temps, les Ophites adoraient le serpent. Dans un deuxième temps, ils sont allés, je parle des origines des Sétiens là, ils sont allés vers l'opinion que Jésus était préférable au serpent, en ce sens que il disait des révélations que le serpent n'avait pas enseignées à Adam et Ève au paradis, et après que Jésus était semblable au serpent. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont pu s'infiltrer dans les communautés chrétiennes, mais on voit qu'ils les ont quittés par la suite. Voyez. Alors, en quelle proportion c'est assez difficile à dire, mais voyez, l'inquiétude d'Irénée, qui dit que son église est quand même gangrénée par le valentinisme, l'inquiétude de Tertullien montre que à la fin du IIe et au début du IIIe siècle, c'est important.
Eh bien, nous allons arrêter donc cette troisième partie pour reprendre donc sur quatrième partie, la tradition gnostique.
Les sculptures de Brigitte Terzieff entrent à l'Académie des Beaux-Arts. Des figures immenses, impressionnantes, spectrales, modelées dans le grès et percées de fer. Nous avons rencontré Brigitte Terzieff dans son atelier à Paris. Une rencontre avec une femme sincère, inspirée par la danse moderne et l'art africain. Cette émission est à écouter sur canalacademy.com.
Voilà, donc nous reprenons notre entretien avec Jean-Pierre Mahé sur ses écrits gnostiques. Et je voudrais maintenant qu'on essaye de voir la postérité de cette tradition gnostique. On considère effectivement qu'il y a eu ce bouillonnement, qu'à un moment donné, les choses se sont fixées et donc on rejetait d'une certaine façon dans l'ombre, mais pas forcément, on supprimait toute une tradition gnostique. Et vous montrez à la fin de votre introduction que, d'une certaine façon, cette tradition gnostique se poursuit, enfin, tout au long des deux millénaires qui nous séparent du Christ. Le mouvement cathare, l'alchimie, une partie de la Kabbale, etc., etc. Bon. Est-ce que vous pouvez nous retracer, d'une certaine façon, comment est-ce que cette tradition gnostique, même pas aussi développée que ce que vous dites, même pas aussi intelligente que tous les courants que vous avez bien mis en évidence, comment est-ce que cette tradition, et quels sont les points qui relient, d'une certaine façon, cette tradition jusqu'à aujourd'hui, disons, jusqu'à Mozart, et nous verrons pourquoi Mozart.
Alors là, encore une fois, vous me posez une question extrêmement difficile, et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Certainement, il y a des continuités historiques, mais d'un autre côté, il faut bien distinguer gnosticisme et gnose. C'est-à-dire, gnosticisme, c'est un mouvement contingent qui s'est produit à une certaine époque, tandis que la gnose, c'est un mode de pensée, qui peut se passer de toute institution et qui est, entre guillemets, éternelle, disons. C'est-à-dire que, indépendamment même de la continuité historique, et c'est ça qui fait la difficulté du problème, on peut retrouver spontanément des idées gnostiques. Néanmoins, je voudrais vous donner quelques indices sur la continuité historique. Alors, le premier point, c'est de bien comprendre que l'orthodoxie établie par Constantin, elle s'applique à l'oïkouméné, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à l'Empire romain, strictement, et pas du tout à l'Empire perse. Donc l'Empire perse déjà à cette époque, à l'époque de Constantin, donc le monde sassanide. Or, il y a des chrétiens et il y a des juifs qui sont depuis longtemps dans ce monde-là. Et donc, rien ne garantit que les mesures d'éviction qui sont prises contre les chrétiens dans l'Empire ne continuent pas de l'autre côté sassanide. Et même, je dirais, on a, disons, dans le manichéisme, la preuve que, bien entendu, encore une fois, le manichéisme n'est pas le gnosticisme, c'est une église institué avec sa hiérarchie, mais je veux dire, il y a de nombreux emprunts gnostiques. Et oui. Alors, on ne peut oui. pas suivre d'une façon continue, si vous voulez, oui. ces oui. mouvements gnostiques, mais on les voit ressortir de temps voilà. en temps. Et en particulier, on voit que dans l'islam, donc cette fois-ci, l'Empire sassanide a cessé d'exister. Il a été, à la suite de la bataille d'Al-Qadisiyya, en 637, remplacé par le califat. On va voir, disons, parmi les chiites, hein, déjà le chiisme en lui-même, hein, qui suppose un sens caché de la religion, hein, rejoint certains aspects, on peut dire, du gnosticisme. Et on va voir un groupe qu'on appelle le chiisme ismaélien ou ismaélite, hein, et qui comporte des éléments gnostiques. C'était, je dirais, le courant exploré par Henri Corbin, et c'est encore celui que, par exemple, Christian Jambé, qui parlera à notre colloque, va exposer. Et alors, il semble, si vous voulez, que des confins de l'Iran, différents survivants, on peut dire, des gnostiques, aient pu progresser petit à petit vers l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements gnostiques à l'époque byzantine, par exemple les Pauliciens, hein, qui ont été écrasés au IXe siècle. Et puis, après ça, eh bien, il y a eu ce fameux mouvement cathare qui est arrivé en France, mais dont on sait qu'il est arrivé d'Orient, parce qu'il a d'abord, disons, pris pied en Dalmatie, puis après, il est passé en Italie, puis après, il est passé à travers le sud de la France, et là, on sait qu'il a été durement combattu par la croisade des Albigeois.
De Simon de Montfort, oui.
Alors, maintenant, il y a aussi des supports, je veux dire, non sociologiques de la gnose. Hein. Il est certain que l'alchimie dont vous avez parlé, ça peut, comme le disait Festugère, qui avait étudié l'alchimie, c'est au départ des recettes pratiques, hein, l'art de dorer les statues ou l'art de changer la couleur des métaux, d'une certaine façon. Et puis, avec un auteur comme Zosime de Panopolis, ça va devenir une espèce de mystique. Hein, c'est-à-dire que, au lieu de considérer que tout s'arrête à partir du moment où on a obtenu le résultat qu'on veut sur tel ou tel métal ou telle opération précise, on va se dire que ce qu'on fait sur les métaux, on peut le faire aussi sur soi-même. Hein. On peut le faire aussi sur soi-même et on peut apprendre à enlever les qualités, les accidents de la matière, pour revenir à l'être pur de la matière et se transformer en être immortel. Hein, donc l'alchimie est prise comme un exercice de vie. Et alors, voyez par exemple ce que ça donne chez un auteur comme Agrippa d'Aubigné, hein, qui dans son livre 6 sur les jugements, cite justement « Oyez chanter Pimandre », n'est-ce pas ? Il va citer Hermès Trismégiste et il va parler du savant alchimiste qui est dans son cabinet et qui se régénère lui-même comme signe de la résurrection future. Donc là, on est en plein, si vous voulez, dans le cas d'une forme de pensée gnostique qui pénètre par des voies indirectes, indépendamment de toute secte gnostique. Et alors, évidemment, je suis obligé de citer Hermès Trismégiste. Nous avons des textes d'Hermès Trismégiste, donc l'Hermès égyptien. Trismégiste, c'est la traduction grecque ou l'explication grecque d'un mot égyptien « a, ou » qui était l'épithète traditionnelle de Thoth, n'est-ce pas ? Eh bien, Thoth, maître de tout savoir secret, a inspiré des traités hellénistiques, d'abord de sciences occultes et ensuite de philosophie dans les premiers siècles de notre ère. Et il a beaucoup intéressé les pères de l'Église, il faut dire au 3e et au 4e siècle, mais il a été redécouvert au moment de la Renaissance. Et donc, au moment de la Renaissance, tout le monde croit qu'il faut se libérer de l'ontologie d'Aristote, c'est-à-dire de la scolastique, et trouver l'appel vers un monde monde supérieur, qui est celui qui est décrit dans Hermès, dans Hermès Trismégiste. Alors, bien entendu, les humanistes vont très vite faire des critiques là-dessus. Ils vont s'apercevoir que les écrits hermétiques ne remontent pas avant le déluge, mais sont d'époque romaine. Mais un certain nombre de grands penseurs visionnaires, hein, des spécialistes de cosmologie, aussi bien Giordano Bruno que par la suite Newton, vont trouver dans Hermès Trismégiste une sorte d'imagination scientifique qui leur permet de s'élever au-dessus du monde, de dépasser le point de vue de notre univers, surtout de l'univers où c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, au lieu que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil, et donc de se diriger vers, on peut dire, la cosmologie moderne. Hein, c'est tout à fait frappant.
Alors, ce retour à l'Égypte, enfin aussi, on le retrouve, c'est pour ça que nous avons écouté depuis le début de la musique de Mozart et de la flûte enchantée, on le retrouve effectivement peut-être avec cette modernité, et donc 1791, flûte enchantée de Mozart, opéra qui est à la fois maçonnique et gnostique, enfin peut-être les deux sont mêlés, où on voit effectivement Zarathustra invoquer Isis et Osiris, et instaurer peut-être d'une certaine façon ce retour de la gnose, donc du savoir, par opposition aux forces un peu magiques ou aux forces un peu religieuses, archaïques. Est-ce que là, on n'a pas, avec la flûte enchantée, un retour en grâce, d'une certaine façon, d'une pensée gnostique, enfin, qui ne fera que croître peut-être d'une certaine façon et embellir, avec la montée ou le développement de la modernité et d'une idée suivant laquelle je peux par moi-même accéder à Dieu, je peux en moi-même trouver les voies et moyens d'accéder à mon âme, et par la connaissance, et par une connaissance qui à la fois est réservée et aussi est initiatique, parce que n'oublions pas que Tamino d'une part, puis Papageno d'autre part, traversent trois épreuves qui vont les conduire vers la révélation. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans cette flûte enchantée, d'une certaine façon, l'opéra de la modernité?
En tout cas, des influences gnostiques qui paraissent évidentes. Vous voyez, il est probable que l'intérêt de Mozart et des gens du XVIIIe siècle pour la maçonnerie vient du fait que les églises institutionnelles sont totalement déconsidérées, compromises dans toutes sortes de scandales. Alors, je me garderai bien de parler des sources maçonniques de Mozart, dont je ne suis pas du tout spécialiste, mais évidemment, en tant que spécialiste du gnosticisme, je reconnais les grands traits du mythe gnostique, c'est-à-dire que la fille de la reine de la nuit, dont Pamino est amoureux, n'est-ce pas, c'est évidemment l'âme spirituelle qui est prisonnière de la matière, et au fond, la matière représentée par la reine de la nuit, c'est une mère abusive, et c'est surtout une mère qui empêche l'épanouissement spirituel de ses enfants et qui les empêche de connaître le vrai dieu de lumière qu'est Zarathustra. Et donc, on a évidemment tout un parcours qu'il faut franchir jusqu'à cette initiation qui permet, donc, je veux dire, à l'âme d'être réunifiée, d'une part, puisque le prince qui représente en quelque sorte l'intellect et sa bien-aimée qui représente l'âme, peuvent s'unir en échappant justement à la matière et connaître la vérité. Et évidemment, ce type d'humanité élitiste est opposé à une humanité plus simple, très proche de l'animalité, qui est l'humanité de l'oiseleur. Mais lui-même peut accéder, grâce à l'aide de son maître, il peut accéder à une forme, je veux dire, d'initiation et d'union légitime. Alors, il n'y a pas de doute que c'est très curieux, parce que ça transforme le mythe gnostique, qui est tout à fait reconnaissable, en une espèce d'utopie sociale ou de projet de société, de contestation, en somme, des institutions de l'époque et d'appel à une libération de l'humanité.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, pour prendre des manifestations, disons, un peu kitsch, de la religiosité ambiante, je pense en particulier au Code da Vinci, à Harry Potter, des choses qui sont extrêmement diffusées, est-ce que vous ne retrouvez pas dans tous ces éléments-là qui sont diffusés à foison aujourd'hui, une pensée gnostique qui est reprise, recyclée, réinterprétée, etc., mais avec des éléments, une structure, une configuration évidente?
Je ne dirais pas que je retrouve une pensée gnostique au sens de pensée structurée.
Cohérente, hein. Oui.
C'est-à-dire que, quand même, Da Vinci Code, c'est avant tout un roman d'aventure. Et un roman, bâti sur le thème de la boîte qu'on ouvre, qui contient une autre boîte, puis une autre boîte. Et c'est de cette façon que s'enchaînent également les chapitres de la narration. Mais, bien évidemment, il y a de nombreuses réminiscences gnostiques dans ce texte. Et peut-être que la plus évidente, c'est la réminiscence à l'évangile de Marie, qui est justement un des textes de Nag Hammadi où Marie s'entretient avec les disciples et elle leur fait prendre connaissance, n'est-ce pas, que tous, ils sont en réalité des femmes et des épouses et qu'ils doivent être masculinisés par la connaissance du Christ et que c'est elle qui, au fond, en embrassant le Christ, a été la première initiée. Bon, ben, ce mythe est repris tel quel. Pour parler de pensée gnostique à proprement parler, c'est-à-dire de quelque chose de plus structuré, il faut recourir à une couche de littérature contemporaine qui est quand même d'une qualité un peu moins populaire que celle que vous évoquez. Je citerai en premier lieu Borges, qui me paraît tout à fait caractéristique, je pense surtout à ses fictions. Ce qui est caractéristique, vous voyez, c'est son rejet de la vraisemblance, de la psychologie, du réalisme, pour substituer à toutes ces ressorts, on peut dire, du roman moderne, le symbolisme. C'est-à-dire que c'est véritablement la perfection des symboles qui conduit la logique de tous ces récits. Et puis, évidemment, je penserai à La chimiste de Coelho, dans lequel vous avez un parcours initiatique. Hein. Et ce parcours initiatique, nous l'avons sous une forme beaucoup plus, peut-être beaucoup plus ténue, mais en même temps plus mystérieuse et tout aussi romantique dans certains écrits de Nag Hammadi, comme les actes de Pierre et des 12 apôtres. Ça, c'est tout à fait les apôtres qui partent pour une île inconnue, puis qui apprennent quelles sont les épreuves qu'ils devront franchir pour trouver la véritable perle.
Le grand danger, c'est effectivement cette conjonction entre une réalité qui est de plus en plus contestée, de plus en plus illusoire, avec une pensée du complot qui est extrêmement forte. Il y a toujours une réalité cachée, des gens qui nous manipulent par ailleurs, etc., qui est, disons, un peu une pensée contemporaine. Et puis, une jonction avec une pensée gnostique telle que vous l'avez bien clairement identifiée à sa naissance, mais qui réapparaît sous des formes qui, effectivement, ne sont pas aussi sérieuses que des théories ou que des choses comme ça, mais qui réapparaissent en tant que telles et qui laissent à supposer que trouve par toi-même le chemin, va trouver en toi-même la part d'éternité qui t'habite, enfin des choses qui paraissent comme ça un peu bébêtes, mais qui en réalité ont un impact absolument colossal sur les imaginations d'aujourd'hui et qui, de cette façon, pousse à laisser tomber, ce qui est le cas du Code Da Vinci, à laisser tomber, disons, des pans entiers de savoir et ou de connaissances religieuses, considérant que celles-ci sont infectées par une suspicion, par des intérêts cachés, par des choses qu'on ne nous a pas dit depuis le début et qui réapparaissent grâce effectivement au Code Da Vinci et autres joyeusetés imaginaires.
Ben, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, le maître mot dans toute cette affaire, c'est la suspicion et le discrédit. Nous sommes rentrés dans une époque de discrédit. On soupçonne les hommes politiques, on soupçonne les gouvernants. Il est vrai que la réponse, je dirais, c'est plutôt les modalités de contrôle, si je puis dire, rationnelles. Mais à côté de ces modalités de contrôle rationnel, il y a aussi la fuite dans des représentations romanesques ou fabuleuses qui sont le gnosticisme. Alors, que ça puisse avoir un aspect négatif, je n'en dis combien pas, que ça puisse aussi avoir un aspect constructeur pour exercer l'esprit, pour se former soi-même, c'est aussi une chose incontestable. Mais évidemment, il ne faut pas transformer ça en thème de littérature de gare.
Voilà, écoutez, merci beaucoup Jean-Pierre Maïd. Donc je recommande pour ceux qui ont aimé Da Vinci ou Harry Potter, qui est une reprise un peu amusante de choses plus sérieuses, je recommande à tous ceux qui ont aimé les écrits gnostiques donc, que vous venez de faire paraître. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis donc je renvoie nos auditeurs à ce magnifique volume de la Pléiade sur les écrits gnostiques. Merci.